C'est toi qui as les clés ?
Ah oui, elles sont là.
Design, cinéma, scénographie, peinture, architecture, la cabane, l'émission où l'on parle d'art sans complexe.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans La Cabane, l'émission qui parle d'art et de culture sans complexe. Je suis Harold Buffeteau et je suis accompagné par Émilie.
Salut Harold.
Comment ça va Émilie ?
Bon, ça va bien.
Alors aujourd'hui Émilie, on va refaire le point sur le concept de l'émission. Le concept c'est de se mettre autour d'une table, d'inviter un invité et qui nous apporte une thématique. Mais aujourd'hui, est une émission particulière comme toutes les autres de toute façon, puisqu'on n'a pas un ou une invité, mais on a deux invités.
Tout à fait.
Et Ariane est là en plus. C'est super. Bonjour à tous.
Bonjour. Salut.
Alors, bonjour. Juste pour les auditeurs et auditrices, Ariane.
Bonjour à tout le monde.
Florent.
Salut.
Arthur.
Salut.
Alors, on invite officiellement, enfin, les invités officiels sont Florent et Arthur. Et alors déjà, ce qu'on fait au tout début de l'émission, c'est qui êtes-vous ? Que faites-vous là ?
C'est moi qui commence ?
Ouais.
Je m'appelle Florent Oulcaïd. Je fais du théâtre dans la vraie vie du monde véritable. Et
du monde véritable
pour parler de ça.
Ah, ok.
Pour parler du théâtre et d'écriture, si je crois bien.
Voilà. Et Arthur ?
Eh ben ouais, moi c'est Arthur Levrard et je fais de la bande dessinée et de l'illustration.
Et qu'est-ce que vous avez comme lien tous les deux ? Parce que vous êtes là tous les deux, mais vous vous connaissez.
Ben, du coup, on est potes depuis, depuis quelques années, depuis 5-6 ans peut-être.
Ouais.
Et du coup, on s'est toujours entraidé dans nos pratiques, et notamment autour de l'écriture. Par exemple, aussi, même Florent, pour apprendre ses textes et tout, j'étais là au début.
Est-ce que vous êtes les prochains futurs Thomas Joly et Jean Giraud ?
Non.
J'avais très envie de poser cette question.
J'en connais qu'un des deux, en fait, donc je ne saurais pas dire. Mais du coup, en connaissant qu'un des deux, je vais dire non.
Thomas Joly, du coup, il est acteur et metteur en scène.
Ouais.
Et Jean Giraud, toi, Arthur, tu le connais ?
Ouais.
C'est celui.
C'est Mobius.
Mobius ou Gir, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc, il est un dessinateur de bande dessinée. Ok. Et c'est quoi ? Moi, j'avais une question que j'aurais aimé poser limite à tous nos invités. C'est est-ce que vous avez des références artistiques ? Est-ce qu'il y a des choses qui... C'est un truc qui m'intéressait à chaque fois, mais que j'ai oublié de poser comme question. C'est quoi vos références ? Est-ce que vous avez des références ou des icônes ? Icônes, c'est peut-être un peu fort, mais...
Moi, j'ai pas spécialement de références. J'ai plus de gens qui m'ont... des gens qui m'ont donné envie de faire de la BD, par exemple. Quand j'étais petit, j'étais fan de Titeuf. Donc, en fait, Zep à la base. Ah, oui. Et puis, après, très vite, c'était les BD de mon père. Donc, les Flux glaciales avec les Bidochons, Gottlieb, tout ça. Et j'ai jamais adoré un auteur au point de vraiment le suivre.
De copier son style ou des choses comme ça.
Ouais, non.
Ok. Et toi ?
J'ai pas d'idole, tu vois, de personne j'ai pas de modèle, quoi. Mais après, il y a des gens qui m'ont inspiré, c'est sûr. Notamment sur une personne que je cite souvent, notamment pour le spectacle, parce que j'ai un seul en scène que j'ai écrit et tout ça, où je joue plusieurs personnages. Et en fait, là-dessus, j'ai clairement été inspiré par un mec qui s'appelle François de Brouwer, qui est un comédien parisien, qui est trop fort, qui a un spectacle qui s'appelle La Loi des Prodiges, où pareil, il joue tout seul une quarantaine de personnages, où il raconte l'ascension d'un mec frustré dans le domaine de l'art, et qui va grandir pour devenir une sorte de dictateur qui déteste les artistes. Donc, voilà.
Et ton seul en scène, ça s'appelle comment ?
Ça s'appelle La Fabuleuse Aventure des Grandes Personnes.
Et est-ce qu'un jour, on aura la possibilité de venir le voir ?
Mais franchement, j'espère.
Et donc, les gars, vous êtes venus pour nous parler d'une thématique bien particulière qui s'appelle l'entraide dans la création.
Ouais.
Et ben, on va parler de ça tout de suite, alors.
La thématique, c'est la thématique.
Alors, l'entraide dans la création, c'est un vaste sujet, ou alors très court, ça dépend comment on le perçoit. L'entraide, évidemment, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce qu'est l'entraide, c'est l'action de s'entraider. Merci.
Ah oui.
Merci le dictionnaire. Et de s'aider mutuellement et agir en commun pour un travail qui soit individuel ou une action collective. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette thématique ?
Totalement, parce que en vrai, on a tous les deux quand même commencé sans avoir spécialement les codes de nos pratiques, sans connaître spécialement bien nos milieux et tout. Et du coup, on s'est vachement entraîné sur juste les retours sur ce qu'on faisait, tout ça. Ça nous parle, quoi.
Ouais, surtout, tu sais, tu dis la fabuleuse définition, là.
Oui.
Dites que c'est soit pour un travail collectif, soit pour un travail individuel. Et en fait, ce qui se passait au départ, quand on a commencé à travailler chacun dans nos domaines, où on créait des trucs Arthur, évidemment, il était tout seul à dessiner, à écrire, et moi, j'étais tout seul à jouer. Et malgré ça, et c'est peut-être même d'ailleurs ça qui nous a poussé à coopérer, c'est en fait, vu qu'on est tout seul au plateau, tout seul à l'écriture, tout seul au dessin, on savait qu'il y avait des personnes ressources qui étaient là pour nous aider là-dessus, en fait. Et c'est...
Finalement, c'est un acte de création individuelle qui vous a poussé à l'entraide par une personne qui n'a pas du tout le même domaine. Parce que vous n'êtes pas du tout dans le même domaine. Vous n'avez jamais pratiqué le même... Enfin, Arthur, est-ce que tu as déjà fait du théâtre ?
En fait, j'étais dans le milieu associatif du théâtre d'impro, mais en fait, via Florent, quand lui, il commençait ça. Donc, non, je n'ai jamais fait de théâtre avant. Mais je pense que le gros point, c'est qu'on était débutants et on était seuls et on était potes. Donc, du coup, voilà, ouais. On avait du temps libre.
Et toi, Florent, tu n'as jamais eu la pratique du dessin ou
Si, en plus. Mais jamais sérieusement, quoi.
Dans les marges des cahiers de maths, comme je disais dans la dernière émission.
Ça me faisait kiffer, ça me fait toujours kiffer de dessiner des fois, mais en fait, c'est pas un truc auquel je me dis pas j'ai une heure devant moi, je vais dessiner, quoi. C'est plus.
Tu t'ennuies
dans une situation où je dois dessiner.
Ah.
Je dessine, bref, peu importe.
Situation où tu dois dessiner.
Non, mais en fait, c'est n'importe quoi. Genre, c'est une épreuve de Fort Boyard.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'on vous dise que dehors c'est la jungle et que pour réussir il va falloir se battre ?
Wow. Je
pense qu'on a des amis de droite.
On l'entend plus ou moins, mais non. Enfin, en tout cas, j'ai pas de proches qui ont essayé de me démotiver comme ça.
Ouais, mais c'est qui vous l'a dit ce genre de truc ? Ça vous est déjà arrivé ou
Non, bah.
Ou vous l'entendez ? Vous l'entendez de manière générale ?
Oui, c'est ça, c'est de manière générale. Pour la BD, chaque auteur de BD prévient effectivement que c'est quand même une très petite minorité, par exemple, qui arrive à en vivre. Pas forcément à être édité, mais qui arrive à en vivre, ce qui est le plus important. Et du coup, ouais, on entend ça, quoi. On est prévenu que c'est pas safe, forcément, mais voilà, quoi.
Qu'il y a des requins dans le métier ?
Oh, non. Non.
Je sais pas du tout. Hein. Et toi, Flo ?
Bah non, mais après, tu vois, c'est pareil, c'est pas le domaine dans lequel j'évolue, il est plus, même dans le concept même, enfin le théâtre, c'est plus coopératif que la BD, tu vois. Ouais. Ça m'étonne pas que t'aies entendu ça dans le monde de la BD, alors que moi, jamais, en fait. Enfin, on m'a plutôt dit, essayer de nouer des relations solides avec les gens. Enfin, même, on me l'a même pas dit, mais c'est implicite, en fait.
Et toi, Ariane, ça t'est déjà arrivé qu'on te dise ça ? Ou Émilie, d'ailleurs ?
Pour moi, dire ça, c'est mettre beaucoup en compétition les gens. Et bien sûr, la compétition, elle est dans notre monde capitaliste. Moi, j'essaye de complètement m'en détacher parce que je pense qu'au contraire, c'est avec de l'entraide qu'on peut arriver à chacun trouver notre place, en fait. Et qu'il faut trouver notre place. Et chaque personne a une place différente, en fait.
Ouais. Toi, Émilie, ça t'est déjà arrivé ?
Moi je dirais que ça m'est arrivé mais plus en covoite par exemple genre quand tu dis ce que tu fais et que les gens sont là ouais c'est dur non il y a de la compétition vous mettez des bâtons dans les roues enfin moi je dirais que c'est plus les gens qui en fait ont des préjugés sur le milieu
priori,
artistique
ouais.
Des a priori exactement mais sinon des gens du milieu à proprement dit ouais je suis pas sûre
Ah, t'as ça aussi dans les gens de la famille un peu éloignés, oui. Par exemple. Ceux qui te connaissent à peine, genre le grand-oncle, tout. Là, ça tombe assez vite, ce genre de remarque.
Ouais, ouais, j'ai l'impression que c'est un peu une généralité qu'on a sur l'art qui est plus ou moins vraie en fonction des domaines, mais qu'en tout cas, c'est... En tout cas, dans le cinéma, par exemple, c'est un peu un cliché qu'on peut avoir et qu'on va vite entendre quand on dit aux gens qui ne connaissent pas du tout ce milieu qu'on travaille dans le cinéma. Mais ouais. Peut-être qu'en effet, ça ne s'applique pas à tous les domaines, de tous les domaines artistiques.
Bah en fait, si tu te comportes comme ça, on ne va pas te rappeler, quoi.
Oui, c'est ça.
Simplement. Enfin, même, c'est peut-être une manière de vivre au quotidien, tu vois. Donc, ouais. Évidemment. Ouais.
Je crois que dans la création, il y a quelque chose de l'ordre d'une nécessité, en fait, d'expression dans laquelle on veut s'épanouir. Donc, effectivement, on va mettre beaucoup de soi, en fait, et c'est nécessaire.
Dans ce principe, en fait, de jungle et de vouloir se battre, ça s'appelle, pour la petite info, le darwinisme social. C'est inspiré de la théorie du darwinisme. Et ça part du principe qu'il faut éliminer les plus faibles pour laisser les plus forts vivre. Et j'avais envie de vous passer un petit extrait de Pablo Servigne, qui dure pas très longtemps, qui est un bout d'un entretien qui s'appelle « Entraide collective » lors d'une interview qui s'appelle « Motive Légion ».
Et c'est une idée reçue qu'on a depuis tout petit, depuis l'école, en entreprise, à la fac. On apprend toujours qu'il n'y a que la compétition qui régit les relations entre les êtres vivants. Et en fait, quand on observe simplement le vivant, des bactéries aux humains, en passant par les champignons, les animaux, les arbres, eh bien, tout le monde coopère. Tous les êtres vivants sont en relation d'entraide avec d'autres êtres vivants. Ce principe qui associe les êtres vivants, donc coopération, altruisme, mutualisme, il est là depuis 3,8 milliards d'années. Et ce qui nous apprend, c'est que ce ne sont pas forcément les plus forts qui survivent, mais ce sont les groupes les plus coopératifs. Ce sont les espèces et les individus qui s'associent, qui s'entraident, qui survivent le mieux aux conditions difficiles.
Voilà, c'était Pablo Servigne que vous pouvez retrouver donc sur YouTube dans la vidéo Motive Légion. Et donc, il parle d'entraide, mais donc pas de l'entraide dans le côté artistique, mais plus dans la vision qu'on a de la différence entre se battre ou s'entraider. Mais la question qu'on pourrait se poser par rapport à l'entraide, c'est qu'est-ce que... Parce que là, nous, on est tous dans le domaine artistique. Ça serait de se dire, mais comment quelqu'un d'extérieur perçoit cette thématique de l'entraide ? Et je pense qu'on a une intervention de micro-trottoir.
Exactement. J'ai été faire un tour au marché de Talensac pour interroger une personne.
C'est l'instant mamie.
Nous sommes le jeudi 6 mai 2021 et nous sommes au marché de Talensac et nous allons aller au rayon charcuterie pour interroger un client, savoir ce qu'il pense de l'entraide entre artistes.
L'entraide entre artistes, elle peut se développer sur de différentes manières, quoi, bien sûr. Quoi. En fait, on peut penser notamment à travers les différentes associations qui peuvent être créées. Quoi. Ça, c'est des pistes. Hein. C'est des pistes qui peuvent aider les gens à s'épanouir dans leur métier. Quoi. Voilà. Il y a ça. Quoi. Et en fait, aussi, à travers les associations, aussi, c'est faire... quelque part, c'est d'expliquer, c'est faire de la formation aux gens. Quoi. Pour montrer comment en fait, faire de la formation à travers les associations pour... expliquer comment les artistes, donner les liens, comment les artistes peuvent évoluer dans la société et justement s'entraider entre eux. Quoi. Et là, je m'arrêterai là. Quoi.
Vous êtes toujours sur Prune 92 FM dans l'émission La Cabane avec Florent et Arthur comme invités pour cette huitième, il me semble, émission. Nous avons aussi Ariane qui est avec nous pour sa chronique des lectures qu'on entendra plus tard. Et à l'instant mamie, avec ce monsieur qui venait d'acheter de la charcuterie et qui nous parle de l'entraide et de l'association. Les gars, est-ce que vous avez envie de réagir par rapport à cela ?
Ben ouais, non, il a carrément raison sur le truc de... Enfin, moi, de ce que j'ai compris, de ce qu'il disait, c'est sur se passer des pratiques aussi. Et ouais. Sans que ce soit forcément... Enfin, ça peut être fait de manière complètement informelle, même en dehors des structures associatives ou quoi, tu vois, mais... Ne pas garder jalousement ses savoirs et ses bons plans, en fait, tout simplement.
Moi aussi, ça m'a bien parlé. Il était calé pour le coup. parce que moi, je me reconnais bien là-dedans. En plus, les assos, moi, la première asso artistique que j'ai rejointe, c'était les Lézards Scéniques, donc une troupe d'impro de l'école d'archi de Nantes. Et du coup, c'était trop bien, quoi. Même si c'était pas de la bande dessinée, du dessin comme moi j'avais l'habitude de le faire. En fait, c'était une pratique artistique qui permettait de s'exprimer, d'échanger. Et puis, du coup, j'ai même utilisé le dessin dedans pour faire des décors, tout ça. Et puis, du coup, il y a eu un vrai échange là-dessus. Et ça m'a beaucoup servi pendant 2-3 ans, quoi.
Ouais, les arts, c'était cool parce qu'on arrivait, on avait 20 ans, tu vois. Et on nous disait, enfin, on avait champ carte blanche limite. Enfin, il y a 3-4 rencontres plus ou moins importantes de l'année, à savoir les moments où on a accès à la salle de l'école, tu vois, l'auditorium. Et du coup, il faut faire des spectacles un peu plus fournis, enfin, ou un peu plus spectaculaires, bref, pour ces dates-là. Et t'arrives dès la première année, tu peux dire, bah là, je suis motivé et je veux prendre ça en charge. Du coup, ça te met forcément en responsabilité et c'est là où tu. Bah déjà, les plus anciens sont là pour t'aider. Et en plus, t'apprends deux fois plus vite, quoi.
Oui, c'est parce que aussi il y a de l'expérience qui est déjà là, qui vous permet aussi de prendre confiance en disant il y a du support, en fait.
Ouais, c'est aussi ça qui était cool dans cette troupe, c'est que moi, personnellement, quand je suis arrivé, j'avais jamais fait d'impro. Et je me suis direct rendu compte que c'était une troupe pour moi parce que y avait une espèce d'atmosphère où justement les plus anciens, mais qui n'étaient pas anciens, enfin tu vois, c'était là depuis 2 ans, ils avaient la base de l'impro et c'est eux qui préparaient les ateliers et pour nous le transmettre à nous. Et en fait, moi je me suis retrouvé après, un ou deux ans après, à être moi-même un ancien, entre guillemets, qui transmet cette technique, quoi.
Oh, c'est trop bien. Et on va plus s'intéresser maintenant à... Là, on a vu un peu le côté collectif, mais on va plus s'intéresser à votre relation entre vous deux. Et notamment avec quelque chose qu'on a évoqué avec vous en amont, c'était la notion du regard extérieur. Et j'avais envie de commencer avant de vous poser des questions. Commencer par un extrait de Garouste. Je ne sais pas si vous connaissez Garouste, qui est un peintre. Non. Gérard Garouste. Ariane, ça te dit quelque chose? Millette, non plus. C'est un peintre français, graveur, sculpteur français. Né en 1946, en mars, le 10 mars, s'il y en a un, si son anniversaire c'est le 10 mars, vous pouvez lui souhaiter. Et c'est un extrait d'une émission qui s'appelle Thé ou Café, diffusée sur France 2 en 2018, où la journaliste interview en fait Gérard Garouste et Elisabeth Garouste, qui est sa femme, qui est elle, architecte, designer français, qui est née le 17 juillet 1946, qui est la date de mon anniversaire.
Ah, donc, c'est pour ça qu'on parle d'anniversaire, finalement.
Exactement. C'est un message. Ils se sont rencontrés à l'âge de 17 ans et ont grandi humainement et artistiquement ensemble. Et on va voir ce qu'ils vont nous dire.
Mais il y a une chose qui est amusante, c'est qu'on s'est connus. Moi, je sortais de pension. Et dans cette pension, l'initiation à l'art était très faible, alors qu'Elisabeth venait de l'école alsacienne avec une vraie formation artistique, contemporaine, l'art contemporain, elle connaissait. C'est vraiment Elisabeth qui me l'a fait découvrir. Elle était plus dans le bain que moi.
Elisabeth, est-ce que vous avez un regard parfois critique sur le travail de Gérard ?
Eh bien, je dois venir à l'atelier à certains moments précis. Surtout pas par hasard, parce que Gérard pousse des hurlements. Mais il m'appelle à certains moments quand il pense que le tableau peut être vu, mettons. Et alors, parfois, il a un peu peur parce que si je viens et que je lui dis « Oh, mais c'est superbe !» et en fait que lui n'a pas terminé, ça le bloque ou le contraire, etc. Donc, c'est lui qui m'appelle.
Oui. Alors, comment vous utilisez les mots, les adjectifs? Vous les pesez? Vous évitez sa susceptibilité?
Oui, je suis quand même prudente. Voilà,
oui, mais alors, moi, je connais bien Elisabeth, bien sûr, et elle a des expressions qui ne trompent pas, enfin, qui ne me trompent pas. Par exemple, quand elle regarde un tableau avec beaucoup de silence, et elle dit « Il est terminé, là, ce tableau ?»
C'est mauvais signe.
C'était un extrait de Gérard Garouste et d'Elisabeth Garouste. Je voulais juste souligner un premier truc qui était intéressant quand on a commencé à parler, c'est de dire que les parcours différents, en fait, permettent de s'enrichir aussi mutuellement. Et ils en parlent parce que Il en parle au début en disant qu'elle sort de l'école alsacienne. Donc l'école alsacienne, c'est à Paris, c'est une école laïque privée. Et que lui n'a pas du tout d'éducation sur l'art et que en fait, leur échange a réussi à faire qu'ils se sont enrichis. Et après, je vous ai surtout passé cet extrait par rapport à la notion du regard extérieur. Vous, personnellement, à quel moment vous faites rentrer votre regard extérieur? Et est-ce que vous avez peur de ça? Enfin, est-ce que ça vous arrive d'avoir peur de montrer parce que vous sentez que ça va peut-être vous bloquer ou alors...
Je sais pas, tu veux commencer peut-être?
Vas-y, vas-y.
Après, c'est aussi pour ça que du coup, de l'intérêt d'entretenir des relations avec des gens de confiance à qui tu peux montrer, pas forcément à tout moment, mais à qui tu n'as pas peur de montrer ce que tu fais. Du coup, en tout cas avec Arthur, j'ai pas vraiment de timidité ou de peur de montrer mon taf. Au contraire, c'est même plus des fois... des fois, t'attends même rien. Enfin, en tout cas, moi, des fois, j'attends même rien. J'attends pas forcément des critiques concrètes ou constructives sur un taf, mais plutôt un l'aval de quelqu'un qui va te dire ouais, bah c'est chambé, continue. Ou tout de suite te dire ah, je capte pas. Et en fait, juste ça, en fait, ça peut suffire. Mais ça, c'est vraiment le niveau zéro, je dirais. Enfin, en tout cas, le truc de base qu'on fait du coup hyper souvent. Dès que tu commences à faire un truc, moi je sais que personnellement, quand je suis sur un projet tout seul et que je suis en train d'écrire tout seul ou que du coup j'ai pas forcément de regard extérieur implicite, je peux envoyer des trucs à Arthur avec beaucoup trop de textes explicatifs, tu vois, plutôt que de faire. Puis d'envoyer après, de faire une ébauche et puis de dire alors là je voudrais faire ci, ça, alors da. Tu fais un message sur Messenger de 3 pages et tout ça, où tu n'attends pas forcément quelqu'un qui va te dire non, là tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, machin, mais plutôt quelqu'un qui dit ouais, ok, bah vas-y.
Ouais, essaye, ouais.
J'aimerais bien voir, j'en mets quoi.
Et toi, Arthur, ça fonctionne pareil ou pas du tout?
Oui, bah c'est ça. Enfin, moi, du coup, je ne l'ai peut-être pas encore dit, mais du coup, je fais de la BD d'humour. Donc il y a une notion de est-ce qu'il y a l'effet est-ce que ça fait rire? Donc là, du coup, c'est cool parce que on a avec Florent, on cultive un peu des humours similaires et du coup, je sais que si je lui envoie un truc, il va toujours pouvoir me dire vraiment si ça marche pas ou quoi et puis il va pas, il va pas tourner autour du pot spécialement quoi. Donc c'est sûr, c'est bien d'avoir ce genre de regard extérieur. Je pourrais montrer à quelqu'un qui fait de la bande dessinée comme moi, mais qui va pas être sensible à cet humour-là et du coup totalement me décourager en me disant ouais, j'ai pas compris ou c'est pas assez, enfin voilà. Donc ouais, c'est cool d'entretenir ce genre de relation de regard, ouais.
En fait, c'est votre complicité qui fait que vous êtes plus à l'aise l'un vers Claude pour vous montrer le travail, quoi.
Oui, évidemment.
Et ouais, ça vous arrive des fois de dire écoute, là je suis sur un truc, mais j'ai envie de travailler un peu plus avant de te le montrer, ou pas du tout?
En fait,
d'avoir un peu de réserve, quoi.
Personnellement, moi, quand c'est comme ça, du coup, j'avance plus, puis je montre après, tu vois, plutôt que
de le dire.
Teaser.
Teaser, ouais, j'allais dire ça.
Dans quelques minutes, quelque chose va tomber. Tiens-toi prêt.
C'est ça, après. Ouais, non, moi non plus. Justement, en dessin, vaut mieux que le dessin soit... Enfin, pour montrer une idée en dessin, il faut quand même que le dessin soit assez avancé, mine de rien. C'est ça qui est un peu traître. Mais vaut mieux avancer pour être sûr que ce soit compris. Parce que des fois, c'est juste frustrant de montrer un truc et puis c'est interprété vraiment différemment. Donc, autant, ouais, montrer des trucs compréhensibles déjà.
D'accord. Et je voulais savoir, vous, les filles, Ariane et Émilie, ça vous est déjà arrivé de vous confronter à ça? Cette peur du regard extérieur?
Ah,
de
ne
pas vouloir montrer quelque chose parce qu'on ne sait pas.
Ah oui, moi souvent. Moi, j'ai du mal à montrer ce que je fais de manière générale. Je suis assez pudique là-dessus. J'ai du mal avec le regard extérieur. À l'époque où, avec Ariane, dans Millette et Paillettes, on montait La Dérive et qu'on était vraiment en construction de ce spectacle, j'avais du mal à montrer ce qu'on faisait à d'autres gens que la compagnie de clowns qui nous suivait à cette époque-là. Je pense que ça, c'est plus par rapport au fait que le théâtre, j'ai l'impression que tu donnes un peu de toi, enfin de ta personne, enfin même l'art en général. Enfin, on en a parlé dans une autre émission où quand on fait des maths, on donne rien de nous, alors que quand on fait de l'art, on va donner un peu une partie de nous. Et moi, je pense que j'ai peur du regard extérieur parce que j'aurais peur d'être jugée, enfin de juger ma personne plus que ma production, en fait. Peut-être peur d'être blessée, je sais pas. Mais c'est vrai que moi, j'ai du mal. Je sais que c'est hyper essentiel et qu'aujourd'hui, je fais appel à ça dans ma manière de créer. Mais c'est quand même un pas à franchir, je trouve, d'accepter le regard extérieur. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été le cas. Je sais pas pour toi, Ariane.
Moi, c'est complètement différent. Non, j'aime beaucoup montrer, partager, mais toujours dans l'idée de dire que ce que je fais, ce que je montre n'est pas figé, n'est pas terminé, et que le dialogue est essentiel pour créer. En tous les cas, pour moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui a besoin d'être enfermé dans un studio pour aller jusqu'à la finalisation d'un truc. Pas du tout, c'est tout le temps dans l'échange, et même je trouve que mes idées, elles s'affinent. Elle s'affine et elle s'affirme quand j'en parle à quelqu'un parfois. Et je crois que j'arrive à me détacher du regard des autres ou en tous les cas du jugement des autres en me disant que de toute façon, chacun peut bien penser ce qu'il veut. L'important, c'est d'être bien avec soi-même, en fait.
Tu as raison, finalement. Et moi, par rapport à cette question du regard extérieur, il y a le fait de recevoir... Enfin, d'entendre le regard extérieur, aussi d'émettre son avis sur le travail d'un autre. Et vous, les gars, du coup, est-ce que vous aimez faire ça, donner votre avis, que ce soit l'un pour l'autre ou envers d'autres créations? Parce que c'est aussi quelque chose de donner son avis à quelqu'un.
Ouais. Moi, personnellement, j'aime beaucoup, surtout avec ton taf en plus. Mais en fait, c'est exactement. T'as mis le doigt là où je voulais en venir, sur le côté.
Tu parles à qui, Ariane?
Ariane, oui, désolé. C'était pas très radiophonique. Sur le côté... Mais je pense que ça, moi, je l'ai... Vu que j'ai appris à créer dans le milieu de l'impro, c'est-à-dire que t'es rarement tout seul, ça m'a branché comme ça, quoi. Sur le côté de... Déjà, tu crées tout le temps devant des gens, tu crées tout le temps avec des gens, et prends ta feuille dans ton coin avec un carton pour que les autres copient pas, ça marche pas en fait. En plus t'es pudique vis-à-vis de ce que tu livres, ça veut dire que t'es pas là maintenant et que, enfin, si t'es en train de te juger pendant que t'écris, pendant que tu joues, ça marchera pas, tu vois. Les gens le font. J'avais un coach qui disait te juge pas, les gens le feront pour toi, donc ça sert à rien, tu vois.
C'est un super conseil en plus.
Ouais, la première fois que tu le reçois, tu fais ouais, quoi, d'accord. Et puis après tu comprends. Enfin, bon, en tout cas, ça m'a fait ça. Et après, sur donner son avis, du coup, ça va un peu dans le même sens, c'est-à-dire. Perso, quand j'étais bloqué à des moments d'écriture où j'avais l'impression que là je savais plus dans quelle direction aller et tout ça, c'est là où j'ai vraiment appelé des potes à la rescousse, dont Arthur, qu'est-ce que t'en penses, tout ça. Et en fait, la magie quand toi t'es une personne extérieure au projet, c'est que tu vois les différents chemins, tu vois les choses, ça va hyper vite, quoi. Peut débloquer une pièce en 5 minutes, alors que toi t'es dedans depuis 2 semaines et que voilà. Et au départ je me disais, ah mais en fait c'est mes potes qui sont trop forts, enfin ils arrivent à capter tout de suite, alors qu'en fait c'est plutôt la position dans laquelle t'es, où du coup j'ai appris à être dans cette position après dans divers projets où je suis arrivé en regard extérieur et où c'est trop bien, enfin j'adore faire ça personnellement.
Ouais, pareil, c'est un plaisir de donner des regards extérieurs parce que ça semble effectivement facile. On est vraiment le lecteur et on dit, enfin, on peut vraiment se fier à sa sensation à la lecture, par exemple, d'un texte. Si on reste sur sa fin, s'il y a un problème rythmique, s'il y a même des problèmes de compréhension, juste parce que si par exemple Florent il écrit une scène et qu'il est sur son spectacle depuis 2 mois, il peut oublier peut-être un truc. Juste par habitude, et puis du coup, là, se rappeler de « Ah bah oui, là, on ne sait pas où sont les personnages. » Enfin, je dis un exemple au hasard. Et du coup, le regard extérieur, il arrive et il le repère tout de suite, ça. Parce qu'il a l'œil neuf, quoi. Donc ouais, c'est vraiment agréable à faire. En plus, du coup, on a l'impression de... Enfin, c'est con, mais du coup, ouais, vu qu'on débloque le travail de quelqu'un, c'est chouette parce qu'on est soi-même bloqué sur le nôtre. Et du coup, il y a un truc sympa là-dedans. Et ouais, pareil, le fait d'avoir fréquenté le milieu du théâtre d'impro, ça m'a beaucoup appris à échanger là-dessus, à un peu déplacer son ego. Et ça, c'est cool parce que dans le dessin, on peut avoir tendance, vu que c'est quelque chose de très personnel, très intime, on peut facilement avoir tendance à juste ne pas vouloir en fait de regard extérieur.
Et comment vous faites en tant que regard extérieur pour peut-être entre vous ou même avec d'autres personnes pour peser vos mots? Est-ce que ça vous a... parce qu'ils en parlent dans l'extrait de Garouste quand Elisabeth elle dit quand la journaliste lui pose la question, est-ce que vous posez vos mots ou est-ce que vous êtes franc et tout ça? Comment vous vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vous battez des fois?
Vas-y. C'est là où le fait de faire ça avec des potes, c'est plus facile, tu vois. Évidemment, c'est aussi pour ça que des relations comme ça, c'est précieux. C'est que t'es pas obligé de... C'est d'être le plus passif-agressif possible. T'es pas obligé de prendre des pincettes, forcément, parce que la personne, elle sait que... Déjà, je sais qu'Arthur, il sait se planter et qu'il a pas peur de se planter et que du coup, il va pas prendre ça comme une attaque à son égo, en fait. Et puis, vu que la personne, tu l'apprécies, t'as pas... Enfin, tu sais que la personne qui te fait des retours, elle veut le meilleur pour toi et qu'elle veut que ça marche, ton truc, en fait. Donc, elle va pas te descendre pour te descendre, en fait.
Ouais, c'est ça. En fait, faut juste savoir si la personne à qui tu donnes ton avis... Où est-ce qu'elle place l'erreur, si elle est à l'aise avec ou pas. Et dans ce cas-là, t'adaptes un peu tes propos, peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être pas ne pas dire des mots trop forts, mais juste de pas dire des mots qui enferment trop. Enfin, faut pas que notre propre avis, et du coup, avec nos références et tout, bloque le travail de quelqu'un qui a plein d'autres références et tout, plein d'autres... Peut-être... Enfin, des fois, moi, ce que je dis, c'est qu'il vaut mieux peut-être... Là, j'ai pas compris, mais développe un peu, peut-être que... Peut-être que je vois pas où tu veux en venir, mais que toi tu vois et qu'il manque juste quelques lignes ou une intention en plus, je sais pas. Mais ouais, c'est pas bloqué quoi.
Ouais, c'est ça, faut savoir calibrer ce que tu vas dire en fonction de la personne. Est-ce que tu vas arriver et prolonger son écriture au risque d'emmener vers quelque chose qui le désapproprie de ce qu'il fait et qui est pas vers où il veut aller? Ou est-ce que tu vas arriver juste... avec des petits, petits chaussons et dire juste ah là je comprends pas, tu vois. C'est l'avantage avec Arthur de, en fait on peut faire les deux, ouais. Et on sait qu'on comprend où l'autre veut en venir et que du coup voilà quoi.
Il y a un extrait de après on continue à en parler. Il y a un extrait de Roman Frissinet que je voulais vous parler, qui est dans l'album de L'Homme Pâle, qui dure 30 secondes et qui parle justement de cette notion là de sincérité du regard extérieur.
Ah non, mais faut lui dire à ton pote s'il est nul. Non, parce que si quand t'es flingué, tes amis te disent que ça va, mais t'es condamné à être flingué à l'infini, en fait. Faut dire la vérité, tu vois. Parce qu'il y a des gens, ils font des trucs, et leurs potes, ils disent, c'était bien, hein. Et c'est... Moi, si ça avait été mon pote, j'aurais dit, hey, ça va? Ouais, voilà. T'étais nul, voilà, éclaté t'étais. Bon, on va boire un verre? Allez, c'est pour moi.
Est-ce que vous êtes aussi virulent entre vous ou pas?
Oui, oui. Non, pas du tout. Mais là, je pense, du coup, vu que le contexte est quand même parodique, je pense que quand on fait des trucs vraiment nuls, il n'y a même pas besoin de... Enfin, vraiment nuls. Ils ne plaisent pas. En plus, là, ils parlent d'être nuls, carrément. Donc, ouais. C'est vraiment violent. Mais juste quand on fait des trucs qui ne plaisent pas, on n'a même pas besoin de regard extérieur... pour le savoir, parce que les gens vont nous le dire en voyant juste ce qu'on fait et tout. Je pense que il n'y a pas besoin de ça.
Mais comment tu fais quand tu es regard extérieur et que ton pote ou ton collègue te montre un truc et que tu es là en disant oh, c'est nul? Comment tu fais?
Après, c'est aussi l'avantage, en tout cas avec Arthur. Je sais que ce qu'il fait, moi je trouve pas ça nul. Nul, c'est quand même un mot qui est
C'est
hyper
violent.
Ouais. Mais je veux dire, il y a peu de choses que je trouve nulles, mais encore moins, du coup, ce que tu écris, ce que tu dessines, moi je kiffe de base. Et je pense que ce que moi je joue, t'aimes bien aussi. Fin...
Bah oui, c'est ça.
Là, c'est là, il te dit non en fait. Il fallait que je te dise un truc.
Ouais, du coup, rencontrer ce cas, ça dépend vraiment si on est proche avec la personne, je pense. Hein.
Ouais. Mais du coup, votre posture, elle change en fonction des personnes, donc. Je pense.
Ouais, et puis du moment aussi, tu vois. Si tu sors de scène et que la personne vient te voir direct, alors que toi, t'es en plein up pour te dire. Par exemple, je parle très précisément pour le théâtre, mais les critiques, les gens qui te prennent un truc à Dieu pour te faire des retours sur ton spectacle pile à la sortie,
ouais.
C'est pas le moment. Enfin, tu vois, t'es
pire personne.
T'as le sang qui circule très très vite dans ton corps.
Tu veux dire juste après moment, quoi. Juste après, tu veux dire, ou genre même dans les quelques minutes ou quelques heures après.
Ouais, mais même le soir même, en fait, tu sais, t'as envie de kiffer. Globalement, les gens font gaffe à ça, tu vois, de se dire, bah là, c'est pas forcément le moment pour faire des retours parce que la personne n'est pas dans un état pour les recevoir au mieux.
Et puis le spectacle est écrit, il vient d'être joué, la critique, elle a...
ah oui.
C'est pas là qu'elle a sa place.
C'est ça, ouais, y a des moments et des manières, quoi.
Ouais, je pense que c'est différent parce que je vois sur le spectacle Entre deux vagues qui est fait avec le collectif Millet et Paillette, Ariane, Émilie et Florent d'ailleurs, qui est là. Quand on est en stade de maquette, on a ce besoin-là d'avoir un retour immédiat. Alors peut-être que dans la posture de comédienne, Ariane, tu peux peut-être nous en parler. Peut-être que c'est différent, effectivement. Peut-être que tu es plus dans ce que dit Florent en disant que juste après, tu n'as pas envie de retour, tu as juste envie de profiter.
Bah, on est à un stade où il n'y a pas de finalisation, en fait. Donc, on sait qu'il y a quand même beaucoup d'imperfections, on en est conscient. Donc, tu ne reçois pas pareil, les remarques pareilles quand tu sais que ton travail il est fini et que tu montres une forme finie que quand tu montres une forme de maquette et plein d'imperfections. Donc, déjà, le cadre, il est différent, en fait. Ouais.
Et puis là, par exemple, pour les représentations qu'on a fait d'Entre deux vagues, on invitait spécialement les gens pour qu'ils nous disent qu'est-ce qu'on peut améliorer. Tu vois, je parlais plus de la situation où là, le bébé, il est.
Ouais. Je vois la première représentation, en fait.
Ou même, tu vois, ça fait une semaine que tu le joues, tu vas rejouer le lendemain. Si tu as joué le soir, il y a des gens qui sont là, profite de ce moment plutôt que de rentrer dans un travail intellectuel de. De peaufinage du spectacle qui peut être fait demain, en fait, tu vois, on a le temps.
Je vois. On va faire une petite pause musicale pour laisser reposer nos bouches avec, dans la même continuité de l'extrait de Romane Frayssinet, un extrait de l'album de L'Homme Pâle. On a déjà passé de L'Homme Pâle sur une précédente émission la fois dernière, mais bon, on ne peut pas se refuser de passer cette musique qui est vraiment très en cohérence avec notre thématique, qui s'appelle La Vérité et qui est en featuring avec Aurel San.
D'accord. Que c'est beau de voir un artiste frustré devenir méchant alors qu'il est juste mauvais. C'est pas parce qu'il s'acharne que c'est bien. Le flatter pour être sympa, ça ne mène à rien. Maintenant dis la vérité, la vérité. Dis la vérité, la vérité. Surtout si c'est ton pote, la vérité. Le blesser c'est important, la vérité. Dis la vérité. Dis la vérité. Rien que la vérité. T'avais même pas commencé ton album, tu disais déjà que personne n'était prêt. T'avais 15 potes, t'as fait 15 ventes, on dirait bien que personne n'était prêt. Suffit pas de vouloir la légende pour la pénétrer. T'as rien d'original, rien d'inattendu. Dès que tu parles, j'ai un déjà vu. Tu pourras jamais forcer les gens à vouloir écouter ton bruit. Je suis gentil derrière mon écran, mais dans le vrai monde je te détruis. Si je te dis ça c'est pour ton bien, tu te la racontes comme un sac à main Gucci. Mais t'entends ni les bonnes notes ni les conseils, seul dans ton monde comme un Tamagotchi. Normalement ça fait, n'écoute pas les autres, vis tes rêves. Mais toi t'es l'exception qui confirme la règle. Ton album c'est une séance d'IRM. Pour le vendre tu t'inventes une vie de voyou. Non mais tu t'es vu comme si ça t'arrivait d'être G. Rentre chez ta mère, bye bye, arrivederci. Dis la vérité. Dis la vérité. C'est bon là, je crois qu'il a compris. Non, laisse-le moi. Pourquoi tu te fais du mal? Est-ce que t'es complètement con ou t'as pas d'ego? Je suis mal à l'aise comme quand on me raconte une blague et je sais qu'elle va pas être drôle. Fais semblant d'être proche de tes fans, t'es proche de tes victimes comme un escroc. Tu les fais payer 50 balles et tu sais toujours pas tenir un micro. Trop de hype pour ton vrai niveau. Tes potes suceurs sont des mythos. T'es en philo, tu fais du migos. L'album c'est une séance de chimio. Marre
de t'écouter raconter n'importe quoi pour que ça rime. J'en ai marre, tout le monde utilise les mêmes expressions, c'est la schtroumpf partie. J'en ai marre, fallait pas vendre ton âme au diable, arrête de plaindre ton label. J'en ai marre de tes chansons d'amour où tu compares ta meuf à ta mère. Marre de tes clips en DV nul à chier, de tes tentatives de tube raté. Aucun charisme, t'aurais dû te masquer, t'es même pas foutu de plagier.
Que c'est beau de voir un artiste frustré devenir méchant, alors qu'il est juste mauvais. C'est pas parce qu'il s'acharne que c'est bien. Le flatter pour être sympa, ça ne mène à rien. Maintenant dis la vérité, la vérité, dis la vérité, la vérité. Surtout si c'est ton pote, la vérité. Les blessés c'est important, la vérité. Dis la vérité.
La cabane.
Vous êtes toujours sur La Cabane 92 FM sur Prune. Alors, vous venez d'écouter La Vérité, un titre de Lumpal featuring Orelsan sorti en 2018. Et je suis désolé, auditeurs et auditrices, vous avez perdu 3 minutes de discussion qui ont continué en off sur le regard extérieur et sur le fait de se donner des conseils et de l'entraide. Il y avait quelque chose qu'on a commencé à aborder sur le terme de l'ego, un petit peu là, ce qu'on a dit, sur le fait que de mettre son regard, de permettre un regard extérieur, c'est aussi extérieur, c'est aussi mettre son ego de côté.
Ouais, ouais, ouais.
Ça vous parle ça ou pas du tout?
En fait, c'est de pas placer son ego dans ce qu'on fait, enfin dans... Enfin, ouais, c'est juste ce qu'on fait, c'est quelque chose qu'on fait pour justement pour montrer aux autres. Donc, du coup, ils mettent son ego, c'est vraiment dommage et c'est pas profitable à justement la notion de regard, de critique, tout ça. Parce que de toute façon, il y en aura toujours des critiques, des gens qui vont donner leur avis. Du coup, vaut mieux être accueillant avec ça, quoi.
Et quand j'avais une autre question, quand en fait, le regard extérieur il fonctionne que quand le projet est individuel, par exemple. Toi, Arthur, tu as un projet, ton œil extérieur, c'est Florent. Florent, tu as un projet individuel, ton œil extérieur, c'est Arthur. Mais je crois que vous avez un projet en commun. Vous êtes en train de créer un projet en commun. Comment ça agit, ce côté un peu regard extérieur?
Du coup, c'est un peu comme si on était, entre guillemets, un seul auteur sur le truc. Ou en fait, c'est ça ferait un même... Enfin, juste un ping-pong d'idées, en fait. Et du coup, on a quand même... Je pense que globalement, on va être d'accord quand est-ce qu'une idée va être finie. Pour préciser, le projet, c'est de la BD d'humour. Du coup, en une page ou deux, quoi, maximum. Et du coup, l'idée, c'est que je pense qu'on a à peu près la même sensibilité sur à quel moment le gag est fini. Et du coup, il n'y a pas de souci qui se passe. Et ça, je pense que c'est aussi parce qu'on est potes depuis longtemps...
Ouais, et puis c'est aussi, du coup, dans la manière d'écrire, quelqu'un qui balance une idée, genre « Oh, ce serait marrant de faire un truc qui se passe... » C'est l'histoire d'un mec qui est trop fier, tu vois. Enfin, genre, je sais pas pourquoi, une fois, j'avais balancé juste un truc comme ça, qui est trop fier dans le sens où il fait genre « Tout va bien », alors qu'en fait, tout va mal, bref, peu importe. Et juste balancer ça, l'autre personne, elle va pouvoir dire « Ah ouais, et puis il pourrait se passer ça. Ah ouais, et puis s'il se passe ça, en fait, il se passe ça. » Et là... c'est vraiment brutal, tu vois, ça se termine vraiment. Et en fait, c'est comme si tu écrivais tout seul, mais que tu avais sans cesse quelqu'un qui rajoutait des petits trucs, en fait. Et c'est aussi là où c'est important d'avoir appris à se planter, je pense, et de pas remettre en question ta vie quand on te dit que ton idée marche pas.
Je fais ça tout le temps, en fait.
Non, parce que c'est juste ça, en fait, c'est en se plantant qu'on repousse.
C'est très dynamique comme méthode d'écriture parce que tout seul, il faut se rendre compte que c'est pas la marche à suivre. Là, cette idée, elle me plaît pas, nanana, donc qu'est-ce que je vais trouver comme idée? Bon, bah, je vais manger, je verrai après. Alors que là, à deux, ça envoie, quoi. C'est ouais. Cool.
Super. On va peut-être passer sur une lecture de Ariane, et on a la chance qu'elle soit là aujourd'hui. Ariane.
Alors, je vais vous lire un court texte. Je vais vous peut-être laisser deviner d'où il vient. Pas très difficile. D'Artagnan, selon les lois du duel de cette époque, pouvait secourir quelqu'un. Pendant qu'il cherchait du regard celui de ses compagnons qui avaient besoin de son aide, il y surprit d'un coup d'œil d'Athos. Ce coup d'œil était d'une éloquence sublime. Athos serait mort plutôt que d'appeler au secours. Mais il pouvait regarder et du regard demander un appui. Dans la bibliothèque de Riri. Lecture. Lecture. Est-ce que vous savez d'où vient ce petit extrait?
Shrek.
Les Trois Mousquetaires.
Ouais, bravo. Ouais. Oui, on parle d'entraide aujourd'hui, alors tout de suite j'ai pensé tous pour un pour tous.
Ouais.
Et voilà, c'était le petit clin d'œil de ma bibliothèque que je voulais partager avec vous. Et puis ce que j'aimais bien dans ce texte, c'est que, bon, on est en 1844 quand Alexandre Dumas écrit ce livre, donc les duels, etc., les règles de duel, bon. C'est une époque, mais l'important juste d'un regard et d'un appui et de savoir qu'on a quelqu'un à côté de nous qui est là en fait, pour nous soutenir, même s'il n'est pas là en soutien dans l'action. Et ça, c'est y a différents soutiens, en fait, différents types d'entraide, on en parle depuis ce matin, à la fois plus dans l'action et à la fois plus vraiment dans une présence, quoi.
Ouais.
Donc ça, c'est important. Pour moi,
Et ça, c'est exactement, je l'ai intellectualisé plus tard, mais c'est exactement la situation dans laquelle je me suis retrouvé, où la première fois où j'avais écrit mon spectacle, mon seul en scène, peut-être en juin 2019, et pendant l'été, je voulais le jouer dans des bars un peu en mode schlag. Et en fait, avoir Arthur, qui était là pour faire la technique, balancer des sons et balancer des noirs pour le spectacle, tout simplement, enfin, c'était vraiment...
Simple.
Technique très simple, quoi, parce que le spectacle le permet, mais aussi parce qu'on voulait le jouer facilement et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais surtout besoin de quelqu'un qui soit là, parce que sinon, je pouvais pas le faire tout seul, préparer tous mes petits trucs dans mon coin pour jouer le soir devant 60 personnes sans avoir parlé à personne de la journée. Enfin, tu vois, c'est pas possible, quoi. Et du coup, Arthur, pour ça, il a été trop cool, quoi. Pas seulement dans l'heure où j'avais besoin de lui, mais me valider avant, même si c'est pas te mettre en confiance de manière active, c'est quelqu'un qui accepte d'être là. S'il est là, c'est qu'il est au bon endroit, en fait. Enfin, c'est qu'il estime qu'il est au bon endroit. Donc, ça veut dire que ce que tu fais, c'est cool. Et
puis ce moment, vous l'avez vécu ensemble, et ça, c'est important.
Ouais.
Parce que voilà, vous savez que vous étiez deux à vivre ce moment et à le partager. En dehors du public, qui est peut-être un peu plus anonyme.
Oui, c'est ça.
Ouais, à partir de deux, c'est déjà plus facile d'encaisser. Et même des fois, tu disais, juste de savoir qu'il y a des gens qui sont là, même si elles ne sont pas là, juste de le savoir, et ben en fait, ça apaise beaucoup plus. On n'est pas à se faire des montagnes. On sait que dans bien des cas, il y a des gens qui sont là.
Oui, c'est assez même dur, l'inverse, je trouve. Enfin, je ne sais pas si vous êtes retrouvé dans cette circonstance d'être seul et de se dire « Ah oui, en fait, là, je suis tout seul et c'est dur. J'ai pas de support, je ne sais pas sur quoi ou sur qui m'appuyer. » Et c'est vraiment... Je pense que c'est pour ça qu'il y a des gens qui abandonnent ou même qui... Enfin, si je prends par exemple les études, je connais ou j'ai connu plein de gens qui ont abandonné la pratique artistique parce que je pense qu'à un moment donné, ils n'avaient plus de vision... En gros, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont abandonné parce qu'en fait, ils n'avaient pas de support et d'entraide. Et qu'ils étaient là, en fait, je suis tout seul et je dessine dans mon coin. Ouais. Et voilà quoi.
Mais ça, je pense que c'est aussi une problématique, parce que tu as fait les Beaux-Arts, t'en parlais dans la dernière émission, et j'ai l'impression que c'est une problématique aux Beaux-Arts de manière générale, parce que moi, je dirais que j'ai un peu vécu la même chose. On n'est pas du tout incité à l'entraide, en fait, aux Beaux-Arts. C'est chacun fait sa pratique. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu. Hein. Et je pense qu'en effet, c'est important, comme vous disiez en début d'émission, de pouvoir avoir quelqu'un, un pote, sur qui compter pour pouvoir avancer. Et je pense que votre méthode de travail pour votre nouveau projet en ping-pong, en presque cadavre exquis, je pense que c'est vraiment hyper enrichissant. Mais du coup, je me demande, est-ce que par rapport à cette méthode de travail, vous avez un regard extérieur? Parce que finalement, en fait, vous êtes deux créateurs. Est-ce que vous avez un regard extérieur autre que l'autre, en fait?
Ben, du coup, l'éditeur.
Ah oui.
Ça va être l'éditeur qui va nous dire, ah, bah, ça, c'est nul.
T'as aussi, avant c'est... ça, t'as quand même un truc de, par exemple, ta copine, Maëlle, ouais. qui jette un œil de temps en temps. On sait qu'on a des potes, si on leur envoie... Enfin, tu vois, là, avec Arthur, on a une relation qui est plus poussée là-dedans. Mmh. Mais en fait, on l'a aussi à différents niveaux, comme des germes avec plein de gens. Et du coup, on se base aussi là-dessus, quoi.
Ouais.
Mais je pense que le mythe... L'espèce de mythe de l'artiste tout seul, tu vois, ouais. qui nous distille des trucs. Je ne sais pas si ça existe vraiment, en fait.
Bah, moi, en vrai, je l'ai un peu vécu une période, quasiment tout le lycée, où j'avais plus spécialement de contact avec des gens qui dessinaient, faisaient de la BD et ouais. tout. Donc, je cultivais toujours l'envie de dessiner. Je dessinais, mais beaucoup moins que, par exemple, au collège, où je faisais partie d'un fanzine, qui y avait une émulation énorme et tout. Et du coup, après... moi, j'ai fait un an de prépa à Nantes en art appliqué et j'ai arrêté ensuite et je me suis retrouvé un peu sans personne dans la BD ou quoi. Et du coup, c'est là où le théâtre est intervenu et m'a permis de remettre un pied dans un milieu créatif et tout, et qui m'a donné la confiance d'aller chercher aussi dans le milieu associatif de la bande dessinée, ouais. ce que j'ai fait que maintenant, alors que ça fait... 6 ans que j'ai arrêté les études.
Oui, que finalement, en fait, comme disait l'interview au début à Talensac, en fait, le milieu associatif, c'est une vraie ressource, je pense, dans la création, qui est hyper importante. Et par rapport au texte que tu lisais, Ariane, de D'Artagnan, ça me fait penser, moi, tout de suite, ça m'a fait écho à la création partagée qui s'appelle 20 pour tous, tous pour un, qui malheureusement a été suspendue pour cause de Covid, mais qui va reprendre la saison prochaine. Une création partagée qui est destinée aux habitants du centre-ville autour justement des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas et qui sera à la maison de quartier Champ de Mars Madeleine. Et je veux, voilà, si jamais il y a des auditeurs qui sont intéressés pour faire du bruitage et essayer de se mettre au théâtre, je pense que ça peut être une bonne solution. J'en parle parce que c'est des collègues à nous d'une association, une autre association qui s'appelle Kraken. Et je pense que ça peut être intéressant puisque pour moi, l'associatif, c'est vraiment, enfin, en ce qui me concerne, ça a vraiment changé ma vie, même au-delà de l'art en fait. Ça ouvre des portes d'entraide justement qui sont assez importantes.
Et puis c'est une période où l'entraide est super nécessaire.
Je crois bien, oui.
On dirait bien.
Est-ce que vous avez, parce que si vous voulez des regards extérieurs, les auditeurs ou auditrices qui nous écoutent peuvent aussi voir votre travail. Est-ce que vous avez des,
je sais pas.
Des réseaux sociaux, pardon. Ah. J'avais juste pas le mot.
Il fallait que ça sorte.
Ouais, ça a mis du temps. Des réseaux sociaux ou des choses où on peut voir votre travail?
Bah, moi, c'est sur Instagram maintenant, principalement, c'est Arthur Levrard. Voilà, il y a des dessins, pas beaucoup de BD, on voit pas trop, on peut pas se rendre compte des les BD sur lesquelles je travaille en ce moment, parce que je sais pas trop ce que j'ai le droit de montrer, donc dans le doute, je montre rien. Et voilà, mais sinon, oui, il y a quand même quelques petits dessins qui arrivent de temps en temps.
J'ai juste une petite question avant que Flo tu répondes. J'ai vu sur ton Facebook que tu faisais des images en doublon. Enfin, tu prends une image et en fait, il y a une bulle de dialogue. Donc, c'est la même image, c'est le même dessin. Et genre, il y a, je sais pas, 5 cases et les dialogues changent à chaque fois.
Ouais, faut que je pense à les masquer parce que ça fait partie des projets de mon livre. En fait, c'est ma méthode d'écriture est un peu née de ça, du fait que... je voulais faire de la BD d'humour sans trop savoir comment. Et à un moment, j'ai toujours... des illustrations, et à un moment je me suis dit, tiens, cette illustration, je vais faire une BD avec c'est hyper économique quoi. Genre, une illustration, ça fait 9 cases, c'est parfait. Et du coup, juste se creuser la tête sur comment ça peut être marrant avec du dialogue, juste du dialogue en plan fixe, des personnages qui bougent pas. Et du coup, ça fait des problématiques hyper contraignantes, mais qui sont super super cool à explorer quoi. Et du coup, bah, j'ai mon projet de livre, c'est ça, c'est une base de plan fixe comme ça.
D'accord. Donc ouais, il faut que tu penses à les masquer du coup.
Ouais. Est-ce que tu es inspiré par les BD de Fab Caro? Parce que c'est un peu sur ce système-là et c'est très drôle aussi, ça fait un peu appel à l'absurde. Moi j'ai découvert ça il y a pas longtemps et j'ai vraiment ri aux éclats.
Fab Caro, ça fait partie des auteurs qui ont popularisé l'humour un peu absurde comme ça. Effectivement, ça m'a un peu influencé sur le côté économique, de se dire ok, on peut avoir un dessin un petit peu, on va dire simple, et chercher autre part le contenu de ta BD, quoi. C'est cool. Et à côté, justement, il y a des auteurs qui m'inspirent encore plus parce qu'ils vont plus loin dans la démarche, comme Geoffroy Monde, par exemple, que je conseille. Il a un Instagram et il poste des petites BD vraiment drôles. Il faut le dire.
Et du coup, toi, Flo, où est-ce qu'on peut te suivre? À part dans la rue.
Ouais. Quel cas, je partirai en courant. Après, moi, vu que je fais du théâtre, évidemment, et de l'impro, c'est plus compliqué de voir ça sur les réseaux sociaux. Puisqu'il faut venir spectacle vivant, n'est-ce pas? Mais du coup, ouais, sur Facebook, si vous voulez les dates, Florent Olcaïd, tout simplement.
D'accord. T'as pas un Instagram ou un truc comme ça où t'as des belles photos de toi en...
Pas trop, non.
Peut-être en mode beau gosse et tout, dans la rue.
Je suis en retard, merde.
Le lièvre.
Et du coup, votre projet de bande dessinée, est-ce qu'on peut avoir une date, savoir quand est-ce que ça sort, comment, pourquoi,
Alors,
quel éditeur, tout ça?
En fait, c'est né du fait que je me suis retrouvé avec deux trucs sur les bras. Enfin, en fait, j'ai eu un livre et une prépublication de Flux Glacial pour un projet n'existant pas. Juste, ils avaient une envie d'avoir des pages. Et là, du coup, je m'étais dit, ok, deux trucs d'humour à faire, ça fait beaucoup, je me sentais pas spécialement de le faire, je pense que j'allais pas m'amuser. Et du coup, j'ai vraiment rapidement proposé à Florent qu'on écrive des trucs pour leur proposer et voir si ça fonctionne avec eux. Donc ce sera possiblement, si ça existe rapidement, ce serait dans le magazine Flux Glacial. Sinon, ce sera peut-être un projet qui naîtra...
Dans quelques années.
Dans quelques années, ouais.
D'accord, on a hâte de voir ça. En tout cas, merci à vous d'être passé. On arrive bientôt à la fin de notre émission, plus que quelques minutes. Merci beaucoup d'être passé et j'espère que ça vous a plu. C'était court, comme d'habitude.
Super.
Mais voilà, merci Ariane d'être venue faire une petite lecture.
Merci pour ce moment partagé.
Et voilà, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver ce podcast, cette émission sur le site prune.net. Vous pouvez nous retrouver aussi tous les derniers mardis du mois de 13h à 14h sur la radio Prune 92 FM. Nous avons aussi des réseaux sociaux Facebook et Instagram.
Voilà.
J'ai réussi à le placer. on vous souhaite une agréable journée.
Et on se retrouve le mois prochain. Bonne journée.
Au revoir.
Ciao.
Vous venez d'écouter l'émission culturelle La Cabane. Retrouvez nos deux acolytes, accompagnés d'un nouvel invité, chaque dernier mardi du mois, de 13h à 14h, sur Prune 92 FM. La Cabane, l'émission où l'on parle d'art sans complexe.
C'est toi qui as les clés ?
Non, cette fois, c'est pas moi qui ai les clés.
Ah oui, elles sont là.